Chapitre 2. La lettre était courte et la voici autant que je puis m'en ressouvenir. Il y a 3 semaines que je vous cherche, mademoiselle, et que je meurs de douleur. Je n'ai pas dessein de vous parler de mon amour. Il ne mérite plus que vous l'écoutiez. Je ne veux que me jeter à vos pieds, que vous montrez l'affliction où je suis de vous avoir offensé. Je ne veux que vous demandiez pardon, non pas dans l'espérance de l'obtenir, mais afin que vous vous vengiez en me le refusant. Vous ne savez pas combien vous pouvez me punir. Il faut que vous le sachiez. Je ne demande que la consolation de vous l'apprendre. C'était là, à peu près, ce que contenait la lettre. Elle me pénétra, et j'avoue que mon cœur en secret n'en perdit pas un mot. Je crois même que Madame de Mirand s'en aperçut, car elle me dit en me regardant, « Ma fille, ce billet vous touche, n'est-ce pas ?»« Je ne dirai point que non, ma mère. »« Je ne sais point mentir, répondis-je. »« N'écrivez rien, pourtant, je n'en ferai pas mon devoir, avec moins de courage, au contraire. »« Mais, repartit-elle, de quelle offense parle-t-il donc ?»« De la mauvaise opinion qu'il témoigna avoir de moi, quand il trouva M. de Climal à mes genoux, repartis-je. » Depuis qu'il a reçu ma lettre, où je le priais de remettre le paquet de hardes à son oncle, il a bien vu qu'il s'était trompé sur mon compte et que j'étais innocente, et voilà pourquoi il a mis qu'il m'a offensée. « Sur ce pied-là, dit Madame d'Orsin, ce qu'il lui écrit marque aussi bien autant de probité que d'amour. J'aime à le voir rendre justice à la vertu de Marianne. C'est le procédé d'un honnête homme. » Et plus il estime votre fille, moins elle aura de peine à l'amener à ce que la raison et la conjoncture présente exigent qu'il fasse, ou comptez là-dessus. Vous me persuadez, répondit ma bienfaitrice, mais il est temps de nous retirer. Finissons. Nous convenons donc que Marianne écrira à Valville. Il ne s'agit que d'un mot, lui dis-je. Je puis tout à l'heure l'écrire devant vous, madame. Voici de l'encre et du papier dans ce parloir. « Eh bien, soit, ma fille, écris, tu as raison. Une ligne suffira. » Et sur le champ, je fis ce billet-ci. « Je n'ai pu vous parler tantôt, monsieur, et j'aurais pourtant quelque chose à vous dire. Mais, ma mère, quand le prierai-je de venir ? » dis-je alors à Madame de Mirand en interrompant. « Demain, à 11 heures du matin, répondit-elle. « Et je vous serai obligé, ajoutai-je en continuant d'écrire, de venir ici demain à 11 heures du matin. Je vous attendrai. Je suis, et toujours, Marianne Aubat. » Je mis dessus le billet l'adresse telle que ma bienfaitrice me la dicta. Elle se chargea de le cacheter, de le faire porter par quelque domestique du couvent à qui elle parlerait, en se retournant, et je lui donnai. « Je t'avertis que je me trouverai aussi au rendez-vous, ma fille, » me dit-elle lorsqu'elle me quitta. « J'y arriverai seulement quelques instants après lui, pour te laisser le temps de lui dire que je t'ai rencontré dans ce couvent, et que c'est moi qui t'y ai mise en pension, et que, dans vos entretiens, le hasard t'a appris que j'étais sa mère, que je t'ai dit qu'il me chagrinait, que depuis qu'il avait vu une jeune personne qu'on avait portée chez moi, et dont tu ajouteras que je t'ai conté cette histoire, il refusait de terminer un mariage qui était arrêté. Je me montrerai là-dessus comme si j'arrivais pour te voir, et puis ce sera à toi, ma fille, à achever le reste. Allez, adieu, Marianne, jusqu'à demain. Adieu, ma chère enfant, me dit aussi Madame d'Orsin. Je suis votre bonne amie au moins, ne l'oubliez pas, jusqu'au revoir, et ce sera bientôt. Je veux qu'au premier jour elle vienne dîner avec vous chez moi, madame, si vous ne l'amenez pas. Je viendrai la chercher, je vous en avertis. Je serai de la partie la première fois, dit Madame de Mirand, après quoi je vous la laisserai tant qu'il vous plaira. Je ne répondis à tout cela que par un sourire et par une profonde révérence. Elles s'en allèrent et je restais dans une situation d'esprit assez paisible. Bon, qui m'aurait vu, m'aurait cru triste, et dans le fond, je ne l'étais pas. Je n'avais que l'air de l'être, et à me bien définir, je n'étais qu'attendri. Je soupirais pourtant comme une personne qui aurait eu du chagrin, peut-être même croyais-je en avoir, à cause de la disposition des choses, car enfin, j'aimais un homme auquel il ne fallait plus penser. C'était là un sujet de douleur. Mais d'un autre côté, j'en étais tendrement aimé de cet homme. C'est d'une grande douceur. Avec cela, on est du moins tranquille sur ce qu'on vaut. On a les honneurs essentiels d'une aventure et on prend patience sur le reste. D'ailleurs, je venais de m'engager à quelque chose de si généreux. Je venais de montrer tant de raison, tant de franchise, tant de reconnaissance, de donner une si grande idée de mon cœur, que ces deux dames en avaient pleuré d'admiration pour moi. Oh, vous voyez avec quelle complaisance je devais regarder ma belle âme, et combien de petites vanités intérieures devaient m'amuser et me distraire du souci que j'aurais pu prendre. Mais venons aux suites de ces événements et passons au lendemain. Sans doute que ma lettre fut exactement rendue à Valville. C'était à 11 heures du matin que je l'attendais au couvent, et il ne manqua pas d'y arriver à l'heure précise. La première fois qu'il m'y avait vu, à ce qu'il m'a dit depuis, il avait cru nécessaire à se travestir par deux raisons. L'une était qu'après l'insulte qu'il m'avait faite, je refuserais de lui parler s'il me demandait sous son nom, et l'autre que l'abbesse pourrait peut-être savoir ce qui l'amenait et qui il était avant que de me permettre de le voir, au lieu que toutes ces difficultés n'y seraient plus dès qu'il paraîtrait sous la figure d'un domestique qui venait même de la part de Madame de Mirand, car c'était une précaution qu'il avait prise. Mais cette fois-ci, il comprit bien par la teneur de mon billet, qui était simple, que je dispensais de tout déguisement et qu'il n'en était pas besoin. Il m'a avoué depuis que le peu de façon que j'y faisais l'avait inquiété. Et effectivement, ce n'était pas trop bon signe, une pareille visite n'avait plus l'air d'intrigue. Elle était trop innocente pour promettre quelque chose de bien favorable. Quoi qu'il en soit, 11 heures venaient de sonner quand l'abbesse elle-même vint m'annoncer Valville. « Allez, Marianne, me dit-elle, c'est le fils de Madame de Mirand qui vous demande. Elle me dit hier, après qu'elle vous eut quitté, qu'il viendrait vous voir. Il vous attend. Le cœur me battit dès que j'appris qu'il était là. Je vous suis bien obligée, madame, répondis-je, j'y vais. Et je partis. Mais je marchais lentement pour me donner le temps de me rassurer. J'allais soutenir une terrible scène. Oh, je craignais de manquer de courage. Je me craignais moi-même. J'avais peur que mon cœur ne servît lâchement ma bienfaitrice. Ah, j'oubliais encore de vous parler d'un article qui me faisait honneur. C'est que j'étais resté dans mon négligé. Je dis dans le négligé où je m'étais laissé, et me levant, point d'autre linge que celui avec lequel je m'étais couché. Linge assez blanc, mais toujours flétri, qui ne vous pare point quand vous êtes aimable et qui vous dépare un peu quand vous ne l'êtes pas. Joignez-y une robe à l'avenant et qui me servait le matin dans ma chambre. Je n'avais en un mot que les grâces que je n'avais pu m'ôter, c'est-à-dire celles de mon âge et de ma figure, avec lesquelles je pourrais encore me soutenir, me disais-je bien secrètement en moi-même, et si secrètement que je n'y faisais pas d'attention, quoique cela m'aidât à renoncer aux agréments que je ne donnais pas et dont je faisais un sacrifice à Madame de Mirand. Oh, ce n'est pas qu'elle eût songé à me dire. Ne vous ajustez point, mais je suis sûr que dès qu'elle m'avait vu ajuster, elle aurait tout d'un coup songé que je ne devais pas l'être. Enfin, je parus, et me voilà dans le parloir où je trouvais Valville. Qu'il était bien mis, lui, qu'il avait bonne mine. Hélas, qu'il avait l'air tendre et respectueux, que je lui sentis d'envie de me plaire, et qu'il était flatteur, pour une fille comme Marianne, de voir qu'un homme comme lui mit sa fortune à trouver grâce devant elle. Car ce que je dis là était écrit dans ses yeux. Valville ne semblait respirer que ce sentiment-là. Il tenait une lettre à la main. C'était la mienne, celle où je lui avais demandé de venir. Je le sais, dit-il en me montrant cette lettre qu'il baisa. Si je dois me réjouir ou m'affliger de l'ordre que j'ai reçu de votre part dans ce billet, ben je n'y obéis pas sans inquiétude. Et il fallait voir avec quelle timidité, avec quel air de défiance sur son sort, il me tenait ce discours. Monsieur, lui répondis-je, extrêmement ému de tout ce que son abord avait de tendre, de charmant, asseyez-vous. Il fallut ensuite que je repris sa laine. Il s'assit. Oui, monsieur, continuai-je d'une voix encore un peu tremblante, j'ai à vous parler. Eh bien, mademoiselle, repartit-il tout tremblant à son tour, de quoi s'agit-il? Que m'annoncez-vous par ce début? Votre abbesse, c'est apparemment la visite que je vous rends. Oui, monsieur, lui dis-je. C'est elle-même qui, en vous nommant, est venue m'avertir que vous me demandiez. En me nommant, s'écria-t-il, et comment cela se peut-il? Je ne la connais point, je ne l'ai jamais vue. Vous lui avez donc dit qui j'étais. Ah, vous êtes donc convenus ensemble que vous m'enverriez chercher. Non, monsieur, je ne lui ai rien confié. Tout ce qu'elle savait, c'est que vous deviez venir, et c'est une autre que moi qui l'en a instruite. Mais de grâce, écoutez-moi. Vous voulez me persuader que vous m'aimez. Je crois que vous dites vrai, mais quel dessein pouvez-vous avoir en m'aimant? Celui de n'être jamais qu'à vous, me répondit-il froidement, mais d'un ton ferme et déterminé. Celui de m'unir à vous par tous les liens de l'honneur et de la religion. S'il y en avait de plus forts, je les prendrais. Il me ferait encore plus de plaisir, et en vérité, ce n'était pas la peine de me demander mon dessein. Je ne pense pas qu'il puisse en tenir d'autre dans l'esprit d'un homme qui vous aime, mademoiselle. Mes intentions ne seraient-elles douteuses? Il ne reste plus qu'à savoir si elles vous seront agréables et si je pourrai obtenir de vous ce qui sera le bonheur de ma vie. Oh, quel discours, madame! Je sentis que les larmes m'en venaient aux yeux. Je crois même que je soupirais. Il n'y eut pas le moyen de m'en empêcher, mais je soupirais le plus bas qu'il me fût possible et sans oser lever les yeux sur lui. Monsieur, lui dis-je, ne vous ai-je pas dit les malheurs que j'ai essuyés dès mon enfance? Je ne sais point de qui je suis né. J'ai perdu mes parents sans les connaître. Je n'en ai ni bien ni famille et nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. D'ailleurs, il y a encore des obstacles insurmontables. Je vous entends, me dit-il de l'air d'un homme consterné. C'est que votre cœur se refuse au mien. Non, ce n'est point cela, lui dis-je, sans pouvoir poursuivre. Ce n'est point cela, mademoiselle, me répondit-il. Et vous me parlez d'obstacles? Nous en étions là dans notre conversation, quand madame de Mirand entra. Jugez de la surprise de Valville. Quoi? C'est ma mère? S'écria-t-il en se levant. Ah, mademoiselle, tout est concerté. Oui, mon fils, lui dit-elle d'un ton plein de douceur et de tendresse. Nous voulions vous le cacher, mais je vous l'avoue de bonne foi. Je savais que vous deviez être ici et nous étions convenus que je m'y rendrais. Ma chère fille, ajouta-t-elle en s'adressant à moi, Valville est-il au fait? L'as-tu instruit? Non, ma mère, lui dis-je, fortifié par sa présence et ranimé par la façon affectueuse dont elle me parlait devant lui. Non, non, je n'ai pas eu le temps. Monsieur ne venait que d'entrer, et notre entretien ne faisait que commencer quand vous êtes arrivée. Mais je vais lui conter tout devant vous, ma mère. Et sur le champ, vous voyez, monsieur, dis-je à Valville, qui ne savait ce que nous voulions dire avec ces noms que nous nous donnions. Vous voyez comment Madame du Miran me traite, ce qui vous marque bien les bontés qu'elle a pour moi et même les obligations que je lui ai. J'en ai tant que cela n'est pas croyable. Et vous seriez le premier à dire que je serais indigne de vivre si je ne vous conjurais pas de ne plus songer à moi. Valville, à ces mots, baissa la tête et soupira. Attendez, monsieur, attendez, repris-je. C'est vous-même que je prends pour juge dans cette occasion-ci. Il n'y a qu'à considérer qui je suis. Je vous ai déjà dit que j'ai perdu mon père et ma mère. Ils ont été assassinés dans un voyage dont j'étais avec eux dès l'âge de 2 ans. Et depuis ce temps, voici, monsieur, ce que je suis devenu. C'est la sœur d'un curé de campagne qui m'a élevé par compassion. Elle est venue à Paris avec moi pour une succession qu'elle n'a pas recueillie. Elle y est morte et m'y a laissé seul, sans secours, dans une auberge. Son confesseur, qui est un bon religieux, m'en a tiré pour me présenter à monsieur de Climal, votre oncle. Monsieur de Climal m'a mis chez une lingère et m'y a abandonné au bout de 3 jours. Je vous ai dit pourquoi, en vous priant de lui remettre ses présents. La lingère me dit qu'il fallait prendre mon parti. Je sortis pour informer ce religieux de mon état, et c'est en revenant de chez lui que j'entrai dans l'église de ce couvent-ci pour cacher mes pleurs qui me suffoquaient. Ma mère, qui est présente, y arriva après moi, et c'est une grâce que Dieu m'a faite. Elle me vit pleurer dans un confessionnal. Je lui fis pitié et je suis pensionnaire ici depuis le même jour. C'est elle qui paie ma pension, qui m'a habillé, qui m'a fourni de tout abondamment, magnifiquement, avec des manières, des tendresses, des caresses, qui font que je ne saurais y penser sans fondre en larmes. Elle vient me voir, elle me parle, elle me chérit, et en agit avec moi comme si j'étais votre sœur. Elle m'a même défendu de songer que je suis orpheline. Elle a bien raison, je ne dois plus me ressouvenir que je le suis. Cela n'est plus vrai. Il n'y a peut-être point de fille avec la meilleure mère du monde qui soit si heureuse que moi. Ma bienfaitrice et son fils, à cet endroit de mon discours, me parurent émus jusqu'aux larmes. Voilà ma situation, continuai-je. Voilà où j'en suis avec Madame de Miran. Vous qui, à ce qu'on dit, êtes un jeune homme plein de raison et de probité, comme il me l'a semblé aussi, parlez-moi en conscience, monsieur. Vous m'aimez, mais que me conseillez-vous de faire de votre amour après ce que je viens de vous dire? Il faut regarder que les malheureux à qui on fait la charité ne sont pas si pauvres que moi. Ils ont du moins des frères, des sœurs ou quelques autres parents. Ils ont un pays, ils ont un nom avec des gens qui les connaissent. Et moi, je n'ai rien de tout cela. N'est-ce pas là être plus misérable et plus pauvre qu'eux? Va, ma fille, me dit Madame de Miran, achève, et ne t'arrête point là-dessus. Non, ma mère, repris-je, laissez-moi dire tout. Je ne dis rien que de vrai, monsieur, et cependant, vous me demandez mon cœur pour m'épouser. Ne serait-ce pas là un beau présent que je vous ferais? Ne serait-ce pas une cruauté à moi que de vous le donner? Eh mon Dieu! Quel cœur vous donnerais-je, sinon celui d'une étourdie, d'une évaporée, d'une fille sans jugement, sans considération pour vous? Il est vrai que je vous plais. Mais vous ne vous attachez pas à moi seulement à cause que je suis jolie. Ce ne serait pas la peine. Et apparemment que vous me croyez d'un bon caractère. Et en ce cas, comment pouvez-vous espérer que je consente à un amour qui vous attirerait le blâme de tout le monde, qui vous brouillerait avec toute une famille, avec tous vos amis, avec tous les gens qui vous estiment, et avec moi aussi? Car quel repentir n'auriez-vous pas quand vous ne m'aimeriez plus et que vous trouveriez le mari d'une femme qui serait moquée, que personne ne voudrait voir, et qui ne vous aurait apporté que du malheur et que de la honte. Encore n'est-ce rien que tout ce que je dis là, ajoutai-je avec un attendrissement qui me fit pleurer. À présent que je suis si obligé à Madame du Miran, quelle méchante créature ne serais-je pas si je vous épousais? Pourriez-vous sentir autre chose pour moi que de l'horreur, si j'en étais capable? Y aurait-il rien de si abominable que moi sur la terre, surtout dans l'occurrence où je sais que vous êtes? Car je suis informé de tout. Ma mère me vint voir hier à son ordinaire. Elle était triste. Je lui demandai ce qu'elle avait, et elle me dit que son fils la chagrinait. Je l'écoutais sans m'attendre que je serais mêlé là-dedans. Elle me dit aussi qu'elle avait toujours été fort contente de ce fils, mais qu'elle ne le reconnaissait plus depuis qu'il avait vu une certaine jeune fille. Et là-dessus, elle me conta notre histoire. Et cette jeune fille qui vous dérange, qui fait que vous manquez à votre parole, qui afflige aujourd'hui ma mère, qui lui a ôté le bon cœur et la tendresse de son fils, il se trouve que c'est moi, monsieur, que c'est cette pensionnaire qu'elle fait vivre et qu'elle accable de bienfaits. Après cela, monsieur, voyez avec l'honneur, avec la probité, avec le cœur estimable, tendre et généreux que vous avez coutume d'avoir, voyez si vous souhaitez encore que je vous aime, et si vous-même vous auriez le courage d'aimer un monstre comme j'en serais un, si j'écoutais votre amour. Non, monsieur, vous êtes touché de ce que je vous apprends. Vous pleurez, mais ce n'est plus que de tendresse pour ma mère et que de pitié pour moi. Non, ma mère, vous ne serez plus triste ni inquiète. Monsieur de Valville ne voudra pas que je sois davantage le sujet de votre chagrin. C'est une douleur qui ne fera pas à moi-même. Je suis bien sûr qu'il ne me trouvera plus le plaisir que vous avez à me secourir. Il y sera sensible, au contraire. Il voudra y avoir part. Il m'aimera encore, mais comme vous m'aimez. Il épousera la demoiselle en question. Il l'épousera à cause de lui-même, qui le doit, à cause de vous, qui lui avez procuré ce parti pour son bien, et à cause de moi, qu'il en conjure comme de la seule marque qu'il peut me donner, que je lui ai été véritablement cher. C'est une consolation qu'il ne refusera pas une fille qui ne saurait être à lui, mais qui ne sera jamais à personne, et qui, de son côté, il ne refuse pas de lui dire que, si elle avait été riche et son égale, elle avait si bonne opinion de lui qu'elle l'aurait préféré à tous les hommes du monde. C'est une consolation que je veux bien lui donner à mon tour. Je n'y ai pas de regret. Pourvu qu'il vous contente. Je m'arrêtai alors et me mis à essuyer les pleurs que je versais. Valville, toujours sa tête baissée et plongée dans une profonde rêverie, fut quelque temps sans répondre. Madame de Miran le regardait et attendait, la larme à l'œil, qu'il parlât. Enfin, il rompit le silence, et s'adressant à ma bienfaitrice. « Ma mère, lui dit-il, vous voyez ce que c'est que Marianne. Mettez-vous à ma place, jugez de mon cœur par le vôtre. Ai-je eu tort de l'aimer? Me sera-t-il possible de ne l'aimer plus? Ce qu'elle vient de me dire est-il propre à me détacher d'elle? Que de vertu, ma mère, et il faut que je la quitte. Vous le voulez, elle m'en prie. » Et je la quitterai, j'en épouserai une autre, je serai malheureux. J'y consens, et je ne le serai pas longtemps. Ses pleurs coulèrent après ce peu de mots. Il ne les retint plus. Ils attendrirent Madame de Miran, qui pleura comme lui, et qui ne sut que dire. Nous nous taisions tous trois, on n'entendait que des soupirs. « Et Seigneur, m'écriai-je avec amour, avec douleur, avec mille mouvements confus que je ne saurais expliquer. Mais mon Dieu, madame, pourquoi m'avez-vous rencontrée? Je suis au désespoir d'être au monde et je prie le ciel de m'en retirer. Hélas, me dit tristement Valeville, mais de quoi vous plaignez-vous? Ne vous ai-je pas dit que je vous quitte? Oui, vous me quittez, lui répondis-je, mais en me le disant, vous désolez ma mère. Vous la faites mourir, vous la menacez d'être malheureux, et vous voulez qu'elle se console? Vous demandez de quoi nous avons à nous plaindre? Et qu'exigez-vous de plus que ce que je vous ai dit? Quand on est généreux, qu'on est raisonnable, n'y a-t-il pas des choses auxquelles il faut se rendre? Eh bien, vous ne m'épouserez pas, mais c'est Dieu qui ne l'a pas permis. Mais je n'épouserai personne et vous me serez toujours cher, monsieur. Vous ne me perdez point, et je ne vous perds point non plus. Je serai religieuse, mais ce sera à Paris et nous nous verrons quelquefois. Nous aurons tous deux la même mère. Vous serez mon frère, mon bienfaiteur, le seul ami que j'aurai sur la terre, le seul homme que j'y aurai estimé et que je n'oublierai jamais. Ah, ma mère! S'écria encore Valeville en tombant subitement aux genoux de madame de Mirand. Je vous demande pardon des pleurs que je vous vois répondre, et je vous suis cause. Non, faites de moi ce qu'il vous plaira. Vous êtes la maîtresse, mais vous m'avez perdue. Vous avez mis le comble à mon admiration pour elle en m'attirant ici. Je ne sais plus où je suis. Ayez pitié de l'état où je me trouve. Tout ceci me déchire le cœur. Emmenez-moi, sortons. J'aime mieux mourir que de vous affliger, mais vous qui avez tant de tendresse pour moi, que voulez-vous que je devienne? Hélas, mon fils, que veux-tu que je te réponde? Lui dit cette dame. Il faudra voir. Je te plains, je t'excuse. Oh, vous me touchez tous deux, et je t'avoue que j'aime autant Marianne que tu l'aimes toi-même. Lève-toi, mon fils. Ceci n'a pas réussi comme je le croyais. Ce n'est pas sa faute. Je lui pardonne l'amour que tu as pour elle. Mais si tout le monde pensait comme moi, je ne serais guère embarrassé, mon fils. À ces derniers mots, dont Valeville comprit tout le sens favorable, il se rejeta à ses genoux, lui prit une main qu'il baisa mille fois sans parler. Eh bien, madame, lui dis-je, m'aimerez-vous encore? Y a-t-il d'autre remède que de m'abandonner? Le ciel m'en préserve, ma chère enfant, me répondit-elle. Que viens-tu me dire? Va, encore une fois, sois tranquille. Je suis contente de toi. Mon fils, ajouta-t-elle d'un air de bonté qui me ravit encore, je te presse plus de terminer le mariage en question. Oui, cela va me brouiller avec d'honnêtes gens, mais je t'aime encore mieux qu'eux. Vous me rendez la vie, repartit Valeville. Je suis le plus heureux de tous les fils. Mais ma mère, que ferez-vous de Marianne? Ne me permettrez-vous pas de la voir quelquefois? Mon fils, lui répondit-elle, tu me demandes plus que je ne sais. Laisse-moi y rêver, nous verrons. Mais consentez du moins que je l'aime, ajouta-t-il. Très juste ciel, à quoi servirait-il que je te le défendisse? Aime-la, mon enfant, aime-la. Il en arrivera ce qui pourra, reprit-elle. J'avais pourtant dit que j'allais être religieuse. Et je pensais le répéter par excès de zèle, mais comme madame de Mirand l'oubliait, je m'avisai tout d'un coup de réfléchir que je ne devais pas l'en faire ressouvenir. Je venais de m'épuiser en générosité. Il n'y avait rien que je n'eusse dit pour détourner Valeville de m'aimer. Mais s'il plaisait à madame de Mirand de vouloir bien qu'il m'aimât, si son propre cœur s'attendrissait jusque-là pour son fils ou pour moi, je n'avais qu'à me taire. Ce n'était pas à moi à lui dire, Madame, prenez garde à ce que vous faites. Cet excès de désintéressement de ma part n'aurait été ni naturel ni raisonnable. Ainsi, je ne dis mot. Elle se leva. Quelle dangereuse petite fille tu es, Marianne, me dit-elle en se levant. Adieu. Partons, mon fils. Et le fils ne cessait de lui baiser la main qu'il tenait, ce qui n'était pas si mal entendu. Oui, ajouta-t-elle, je comprends bien ce que cela veut dire, mais je ne déciderai rien. Je ne sais à quoi me résoudre. Quelle situation! Adieu, il est tard, va dîner, ma fille, je te reverrai bientôt. Je la saluai sans rien répondre. Et comme je paraissais pleurer et que je m'essuyais les yeux de mon mouchoir. Mais pourquoi pleures-tu? Me dit-elle. Je n'ai rien à te reprocher. Je ne saurais te savoir mon gré d'être aimable. Va-t'en, tranquillise-toi. Donne-moi la main, Valville. Et sur-le-champ, elle descendit l'escalier, aidée de son fils, qui par discrétion ne me parla que des yeux. Et ne prit congé de moi que par une révérence que je lui rendis d'un air mal assuré, et comme une personne qui avait peur de s'émanciper trop et d'abuser de l'indulgence de la mère en le saluant. Me voilà seul, et bien plus agité que je ne l'avais été la veille, lorsque Madame de Mirand me quitta. Aussi avait-il là matière à bien d'autres mouvements. Aime-la, mon enfant, il en arrivera ce qui pourra, avait dit ma bienfaitrice à son fils. Et puis nous verrons, je ne sais que résoudre, avait-elle ajouté. Et dans le fond, c'était m'avoir dit à moi-même, espérer. Aussi espérais-je, mais en tremblant, mais en me traitant de folle d'oser espérer si mal à propos. Et en pareil cas, où on souffre beaucoup, il vaudrait bien ne voir aucune lueur de succès que d'en voir une si faible. Qui ne vient flatter l'âme que pour la troubler. Est-ce que j'épouserais Valville? Me disais-je. Oh, je ne le croyais pas possible. Et je sentais pourtant que ce serait un malheur pour moi si je ne l'épousais pas. C'est là tout ce que mon cœur avait gagné au discours incertain de Madame de Mirand. N'était-ce pas là le sujet d'un tourment de plus? Je ne l'endormis point la nuit suivante. J'endormis mal 2 ou 3 nuits de suite, car je passai 3 jours sans entendre parler de rien, et ce ne fut pas, s'il m'en souvient, sans un peu de murmure contre ma bienfaitrice. Et que ne se détermine-t-elle donc, disais-je quelquefois, à quoi bon tant de longueur? Et là-dessus, je crois que je boudais contre elle. Enfin, le 4e jour arriva, et elle ne paraissait point. Mais au lieu d'elle, Valville, à 3 heures après-midi, me demanda. On vint me le dire, et c'était me donner la liberté d'aller lui parler. Cependant, je n'en usais pas. Je l'aimais 1000 fois plus que je ne l'avais encore aimé. J'avais une extrême envie de le voir, une extrême curiosité de savoir s'il n'avait rien de nouveau à m'apporter, à m'apprendre sur notre amour. Et malgré cela, je me retins. Je refusais de l'aller trouver, afin que si Madame de Mirand le savait, elle m'en estimât davantage. Ainsi, mon refus n'était qu'une ruse. Je fis donc prier Valville de trouver bon que je ne le visse point, à moins qu'il ne vînt de la part de sa mère. Ce que je ne présumais point, puisqu'elle ne m'avait pas averti, comme en effet, elle ignorait sa visite. Valville n'osa me tromper et fut assez sage pour se retirer. Ce trait de prudence rusée me coûta extrêmement. Je commençais à me le reprocher quand il me fit dire qu'il me reverrait le lendemain avec Madame de Mirand. Et voici à propos de quoi il pouvait m'en assurer. C'est que le lendemain, il devait y avoir une cérémonie dans notre couvent. Une jeune religieuse y faisait sa profession, et ses parents en avaient invité toute la famille de Valville, la mère, le fils, l'oncle et toute la parenté, ce que j'appris après, et ce que je présumais au moment où je les vis dans l'église. Vous savez qu'en de pareilles fêtes, les religieuses paraissent à découvert et qu'on tire le rideau de leur grille. Observez aussi que je me mettais ordinairement fort près de cette grille. Madame de Mirand était arrivée si tard avec toute sa compagnie qu'elle n'eut que le temps d'entrer tout de suite dans l'église. Je vous ai dit que j'ignorais qu'elle fût invitée, et ce fut pour moi une agréable surprise lorsque je la vis qui traversait pour venir se placer près de notre grille, un cavalier d'assez bonne mine, quoique un peu âgé, lui donnait la main. Une file d'autres personnes la suivait, à ce qu'il me parut. Je ne la quittais point des yeux, et elle ne me voyait encore point. Enfin, elle arrive, et la voilà assise avec le cavalier à côté d'elle. Ce fut alors qu'à travers ceux qui la suivaient, je démêlai Monsieur de Climal et Valleville. Quoi, Monsieur de Climal? Dis-je en moi-même avec un étonnement, ou peut-être rentrait-il un peu d'émotion. À ce qui est de certain, c'est que j'aurais mieux aimé qu'il n'eût point été là. Je ne savais s'il devait m'être indifférent qu'il y fût, ou si je devais être en être fâché. Mais à tout prendre, ce n'était pas une agréable vision pour moi. J'avais droit de le regarder comme un méchant homme que ma seule présence déconcerterait. Encore, ne serait-ce rien pour lui que l'embarras de me voir en comparaison des circonstances qui allaient s'y joindre et des motifs d'inquiétude et de confusion qui allaient l'accabler. Je n'attendais que l'instant de faire ma révérence à Madame de Mirand, sa sœur, et Madame de Mirand ne manquerait pas d'y répondre avec cet accueil aisé, tendre et familier qui lui était ordinaire. Oh, que penserait-il de cette familiarité? Quelle suite fâcheuse n'en pouvait-il pas prévoir? Madame, concevez bien combien il se trouverait redoutable pour sa gloire et combien un méchant qui vous craint est lui-même à craindre. Et tout ce que je vous dis là m'agitait confusément. Son neveu fut le premier qui m'aperçut et qui me salua avec je ne sais quel air de gaieté, de confiance, qui était de bon augure pour nos affaires. Monsieur de Climal, qui s'asseyait en ce moment, ne le vit point me saluer et parlait au cavalier qui était auprès de Madame de Mirand. Cette dame les écoutait et ne regardait point encore du côté des religieuses. Enfin, elle jeta les yeux sur nous et m'aperçut. Ce furent aussitôt de profondes révérences de ma part qui m'attirèrent de la sienne, de ces démonstrations qui se font avec la main et qui signifiaient « Ah, bonjour, ma chère enfant, te voilà. » Son frère, qui tirait alors de sa poche une espèce de bréviaire, remarqua ces démonstrations, les suivit de l'œil et vit sa petite lingère qui ne paraissait pas avoir beaucoup perdu en le congédiant et dont les ajustements ne devaient pas lui faire regretter le paquet de hardes malhonnêtes qu'elle lui avait envoyé. Ce pauvre homme, car l'instant approche où il méritera que j'adoucisse mes expressions sur son chapitre, ce pauvre homme pour qui, par une espèce de fatalité, je devais toujours être un sujet d'embarras et d'alarmes, perdit toute contenance en me voyant, et n'eut pas la force de me regarder en face. Je rougis à mon tour, mais en ennemi hardi et indigné, qui se sent l'avantage d'une bonne conscience, et qui a droit de confondre une âme coupable et au-dessous de la sienne. Je doutais s'il me saluerait ou non, et il n'en fit rien, et je l'imitais par hauteur, par prudence, et même par une sorte de pitié pour lui. Il y avait de tout cela dans mon esprit. Je m'aperçus que Madame de Mirand l'observait, et je suis persuadé qu'elle sentit bien le désordre qu'il se trouvait, tant à cause de moi qu'à cause de Valleville, que, par bonheur pour lui encore, il croyait seul au fait de son indignité. Le service commença, Il eut un serbon qui fut fort beau, oh je ne dis pas bon. Ce fut avec la vanité de prêcher élégamment qu'on nous prêcha la vanité des choses de ce monde. Et c'est là le vice de nombre de prédicateurs. C'est bien moins pour notre instruction qu'en faveur de leur orgueil qu'ils prêchent, de sorte que c'est presque toujours le péché qui prêche la vertu dans nos chairs. La cérémonie finie, Madame de Mira me demanda et vint au parloir avant que de partir. Elle n'avait que son fils avec elle. Monsieur de Climal s'était déjà retiré. Bonjour, Marianne, me dit-elle. Le reste de la compagnie m'attend en bas, à l'exception de mon frère qui est parti. Je ne suis monté que pour te dire un mot. Voici Valville, oh, qui t'aime toujours, qui me persécute, qui est toujours à mes genoux pour obtenir que je consente à ses desseins. Il dit que je ferais son malheur si je m'y opposais. C'est une inclination insurmontable et que sa destinée est de t'aimer, d'être à toi. Je me rends. Je ne saurais dans le fond condamner le choix de son cœur. Tu es estimable et c'est assez pour un homme qui t'aime et qui est riche. Ainsi, mes enfants, aimez-vous, je vous le permets. Toute autre mère que moi n'en agirait pas de même. Suivant les maximes du monde, mon fils fait une folie. Je ne suis pas sage de souffrir qu'il la fasse. Mais il y va, dit-il, du repos de sa vie, et il me faudrait un autre cœur que le mien pour résister à cette raison-là. Je songe que Valville ne blesse point le véritable honneur, qui ne s'écarte que des usages établis, qui ne fait tort qu'à sa fortune, qu'il peut se passer d'augmenter. Il assure qu'il ne saurait vivre sans toi. Je conviens de tout le mérite qu'il te trouve. Il n'y aura dans cette occasion-ci que les hommes et leurs coutumes de choquer. Dieu ni la raison ne le seront pas. Qu'ils poursuivent donc. Ce sont tes affaires, mon fils. Tu es d'une famille considérable. On ne connaît point celle de Marianne. Mais l'orgueil et l'intérêt ne veulent point que tu l'épouses. Tu ne les écoutes pas, tu n'en crois que ton amour. Je suis à mon tour ni assez orgueilleuse, ni assez intéressée pour être inexorable. Je n'en crois que ma bonté. Tu m'y forces par la crainte de te rendre malheureux. Je serai réduite à être ton tyran et je crois qu'il vaut mieux être ta mère. Je prie le ciel de bénir les motifs qui font que je te cède. Mais, quoi qu'il arrive, j'aime mieux avoir à me reprocher mon indulgence que l'inflexibilité dont tu ne profiteras pas et dont les suites seraient peut-être encore plus tristes. Valville, à ce discours, pleurant de joie et de reconnaissance, embrassa ses genoux. Et pour moi, je fus si touché, si pénétré, si saisi, qu'il ne me fut pas possible d'articuler un mot. J'avais les mains tremblantes et je m'exprimais ce que je sentais que par de courts et fréquents soupirs. Tu ne me dis rien, Marianne, me dit ma bienfaitrice, mais j'entends ton silence. Je ne m'en défends point. Je suis moi-même sensible à la joie que je vous donne à tous les deux. Le ciel pouvait me réserver une belle fille qui fût plus au gré du monde, mais non pas qui fût plus au gré de mon cœur. J'éclatai ici par un transport subit. Ah, ma mère, m'écriai-je, je me meurs. Je ne me possède pas de tendresse et de reconnaissance. Là, je m'arrêtai hors d'état d'en dire davantage à cause de mes larmes. Je m'étais jeté à genoux. Et j'avais passé une moitié de ma main par la grille pour avoir celle de Madame de Mirand, qui en effet approcha la sienne, et Valville, éperdu de joie et comme hors de lui, se jeta sur nos deux mains qu'il baisait alternativement. Écoutez, mes enfants, dit Madame de Mirand, après avoir regardé quelque temps les transports de son fils, il faut user de quelque prudence en cette conjoncture-ci. Tant que vous resterez dans ce couvent, ma fille, je défends à Valville de vous y venir voir sans moi. Vous avez compté votre histoire à la baisse. Elle pourrait se douter que mon fils vous aime, que peut-être j'y consens. Elle raisonnerait avec ses religieuses, qui en parleraient à d'autres, et c'est ce que je veux éviter. Il n'est pas même à propos que vous demeuriez longtemps dans cette maison. Marianne, je vous y laisserai encore 3 semaines, tout au plus un mois, pendant lequel je vous chercherai un couvent où ne sera rien des accidents de votre vie, et où, sous un autre nom que le mien, je vous placerai moi-même, en attendant que j'aie pris des mesures et que j'aie vu comment je me conduirai pour préparer les esprits à votre mariage et pour empêcher qu'ils n'étonnent. On vient à bout de tout avec un peu de patience et d'adresse, surtout quand on a une mère comme moi pour confidente. Valeville, là-dessus, allait retomber dans ses remerciements, et moi dans les témoignages de mon respect et de ma tendresse, mais elle se leva. Tu sais qu'on m'attend, dit-elle à son fils. Renferme ta joie. Je te dispense de me la montrer. Je la vois de reste. Descends donc. Ma mère, reprit son fils, Marianne sera encore un mois ici. Vous me défendez de la voir sans vous. Cela ne veut-il pas dire que je vous accompagnerai quelquefois quand vous viendrez? Oui, dit-elle. Il faudra bien, mais une ou deux fois seulement et pas davantage. Allons, sortons, au nom de Dieu, laisse-moi te conduire. Il y aurait une difficulté à laquelle je ne songeais pas. Oui, c'est que mon frère connaît Marianne, sait qui elle est, et peut-être serons-nous obligés de vous marier secrètement. Tu es son héritier, mon fils. C'est à quoi il faut prendre garde. Il est vrai qu'après son aventure avec Marianne, on pourrait espérer le gagner, lui faire entendre raison. Et nous consulterons sur le parti qu'il y aura à prendre. Il m'aime, il a quelque confiance en moi. Je la mettrai à profit et tout peut s'arranger. Adieu, ma fille. Et sur le champ, elle se hâta de descendre et me laissa plus charmé que je n'entreprendrais de le dire. Je vous ai conté qu'il y avait 3 ou 4 nuits que je n'avais presque pas dormi de pure inquiétude. À présent, mettez-en pour le moins autant que je passais dans l'insomnie. Rien ne réveille tant qu'une extrême joie ou que l'attente certaine d'un grand bonheur. Et sur ce pied-là, jugez si je devais avoir beaucoup de disposition à dormir. Imaginez-vous ce que je deviens quand je pense que j'épouserai Valville, et combien de fois mon âme en tressaille, et si avec tant de tressaillements, j'avais le sang bien reposé. Les 2 premiers jours, je fus simplement enchanté. Ensuite, il s'y joignit de l'impatience. Oui, j'épouserai Valville. Madame de Mirand me l'a dit, me l'a promis. Mais cet événement, quand arrivera-t-il? Je vais demeurer encore un mois ici. On doit me mettre après dans un autre couvent afin de prendre des mesures pour ce mariage. Mais ces mesures sont-elles bien longues à prendre? Ira-t-on vite? On n'en sait rien, on ne fixe aucun temps. On peut changer de sentiment. Et ces pensées altéraient extrêmement ma satisfaction. J'en souffrais quelquefois presque autant que d'un vrai chagrin. J'aurais voulu pouvoir sauter de l'instant où j'étais à l'instant de ce mariage. Enfin, ces agitations, tant agréables que pénibles, s'affaiblirent et se passèrent. L'âme s'accoutume à tout, sa sensibilité s'use, et je me familiarisais avec mes espérances et avec mes inquiétudes. Me voilà donc tranquille, il y avait 5 ou 6 jours que je n'avais vu ni la mère ni le fils, quand un matin on m'apporta un billet de Madame de Mirand, où elle me mandait qu'elle me viendrait prendre à 1 heure après-midi avec son fils pour me mener dîner chez Madame d'Orsin. Et son billet finissait par ces mots: Et surtout, rien de négligé dans ton ajustement, entends-tu? Je veux que tu te pares. Et vous serez obéi, dis-je en moi-même en lisant sa lettre. Aussi avais-je bien l'intention de me parer, même avant que d'avoir lu l'ordre. Mais cet ordre mettait encore ma vanité bien plus à son aise. J'allais avoir de la coquetterie par obéissance. Quand je dis de la coquetterie, c'est qu'il y en a toujours à s'ajuster avec un peu de soin. C'est tout ce que je veux dire, car jamais je me suis écarté de la décence la plus exacte dans ma parure. J'y ai toujours cherché l'honnête et par sagesse naturelle et par amour-propre. Oui, par amour-propre. Je soutiens qu'une femme qui choque la pudeur perd tout le mérite des grâces qu'elle a. On ne la distingue plus à travers la grossièreté des moyens qu'elle emploie pour plaire. Elle ne va plus au cœur. Elle ne peut plus même se flatter de plaire. Elle débauche. Elle n'attire plus comme aimable, mais seulement comme libertine. Et par là se met à peu près au niveau de la plus laide qui ne se ménagerait pas. Il est vrai qu'avec un maintien sage et modeste, moins de gens viendront lui dire « Je vous aime », mais il y en aura peut-être encore plus qui le lui diraient s'ils osaient. Ainsi, ce sera pour elle que des déclarations de moins, et non pas des amants, de façon qu'elle y gagnera du respect, n'y perdra rien du côté de l'amour. Cette réflexion a coulé de ma plume sans que je n'y prise garde. Heureusement, elle est courte et j'espère qu'elle ne vous ennuiera pas. Continuons. 11 heures sont sonnées. Il est temps de m'habiller et je vais me mettre du meilleur air qu'il me sera possible, puisqu'on le veut. Et c'est encore bon signe qu'on le veuille. C'est une marque que Madame de Mirand persiste à m'abandonner le cœur de Valleville. Si elle hésitait, elle n'exposerait pas ce jeune homme à tous mes appas. N'est-il pas vrai? C'est aussi ce que je pense en m'habillant, et j'ai bien du plaisir à le penser. Mes grâces s'en ressentiront, j'en aurai le teint plus clair et les yeux plus vifs. Mais me voilà prête, 1 heure va sonner. J'attends Madame de Mirand, et pour me désennuyer en attendant, je vais de temps en temps me regarder dans le miroir, retoucher à ma coiffure qui va fort bien, et à qui pourtant, par une nécessité de geste, je refais toujours quelque chose. On ouvre ma porte, Madame de Mirand vient d'arriver, on m'en avertit et je pars. Son fils était à la porte du couvent, et il me donna la main jusqu'au carrosse où ma bienfaitrice était restée. Oh, je ne vous dis pas que quelques sœurs converses que je trouvais sur mon chemin en descendant de chez moi me parurent surprises de me voir si jolie. Jésus, mignonne, que vous êtes belle! S'écrièrent-elles avec une simplicité naïve à laquelle je pouvais me fier. Je vis Valleville prêt à s'écrier à son tour. Il se retint. La tourière était présente. Il ne s'expliqua que par un serrement de main que j'approuvai d'un petit regard qui n'en fut que plus doux pour être timide. Monsieur de Climal ne se porte pas bien, me dit-il dans le trajet. Il a un peu de fièvre depuis 2 jours. Pourtant pis, répondis-je, je ne lui veux point de mal, et il faut espérer que ce ne sera rien. Là-dessus, nous arrivâmes au carrosse. Allons, monte, Marianne, me dit ma bienfaitrice. Hâtons-nous, il se fait tard. Et je montai. Oh, tu es fort bien, ajouta-t-elle en m'examinant, fort bien. Oh oui, dit Valleville avec un sourire. Grâce à sa beauté et à sa figure, oh, elle est on ne peut pas mieux. Écoute, Marianne, reprit Madame de Mirand, tu sais que nous allons dîner chez Madame d'Orsin. Il y aura du monde, et nous sommes convenus toutes les deux que je t'y mènerai comme la fille d'une de mes meilleures amies qui est morte, qui était en province et qui, en mourant, t'a confié à mes soins. Souviens-toi de cela, et ce que je dirais est presque vrai. J'aurais aimé ta mère si je l'avais connue. Je la regarde comme une amie que j'ai perdue. Ainsi, je ne tromperai personne. Hélas, madame, répondis-je extrêmement attendri, vos bontés pour moi vont toujours en augmentant depuis que j'ai le bonheur d'être à vous. Toutes les paroles que vous m'avez dites sont autant d'obligations que je vous ai, autant de bienfaits de votre part. Il est vrai, dit Valleville, qu'il n'y a point de mère qui ressemble à la nôtre. Aussi ne saurait-on dire combien on l'aime. Oui, reprit-elle d'un air badin, je crois que tu m'aimes beaucoup, mais que tu me cajoles un peu. Au reste, ma fille, je ne connais point de meilleure compagnie que celle où je te mène, ni de plus choisie. Oh, ce sont tous gens extrêmement sensés et de beaucoup d'esprit que tu vas voir. Tenez, ne prescris rien. Tu n'as nulle habitude du monde, mais cela ne fera aucun tort auprès d'eux. Ils n'en jugeront pas moins sainement ce que tu vaux. Je ne saurais te présenter nulle part où ton peu de connaissances à cet égard soit plus à l'abri de la critique. Ce sont de ces personnes qui ne trouvent ridicule que ce qu'il est réellement, ainsi ne craint rien. Tu ne leur déplairas pas, je l'espère. Nous arrivâmes alors et nous entrâmes chez Madame d'Orsin. Il y avait trois ou quatre personnes avec elle. Ah, vous voilà donc enfin, vous me l'amenez, dit-elle à Madame de Mirand en me voyant. Venez, mademoiselle, venez que je vous embrasse et allons nous mettre à table, on n'attendait que vous. Nous dînâmes. Quelque novice et quelque ignorante que je fusse en cette occasion-ci, comme l'avait dit Madame de Mirand, j'étais né pour avoir du goût, et je sentis bien, en effet, avec quels gens je dînais. Ce ne fut point à force de leur trouver de l'esprit que j'appris à les distinguer. Pourtant, il est certain qu'ils en avaient plus que d'autres, et que je leur entendais dire d'excellentes choses, mais ils les disaient avec si peu d'effort, ils y cherchaient si peu de façons, c'était d'un ton de conversation si aisé et si uni, qui ne tenait qu'à moi de croire qu'ils disaient les choses les plus communes. Ce n'était point eux qui mettaient de la finesse, c'était de la finesse qui s'y rencontrait. Ils ne se sentaient pas qu'ils parlaient mieux qu'on ne parle d'ordinaire. C'était seulement de meilleurs esprits que d'autres, et qui par là tenaient nécessairement de meilleurs discours qu'on a coutume d'en tenir ailleurs, sans qu'ils eussent besoin d'y tâcher, et je dirais volontiers, sans qu'il y eût de leur faute, car on accuse quelquefois les gens d'esprit de vouloir briller. Oh, il n'était pas question de cela, et comme je l'ai déjà dit, si je n'avais pas eu un peu de goût naturel, un peu de sentiment, j'aurais pu m'y méprendre, et je ne me serais aperçu de rien. Mais à la fin, ce ton de conversation si excellent, si exquis, quoique si simple, me frappa. Il ne disait rien que de juste et que de convenable, rien qui ne fût d'un commerce doux, facile et gai. J'avais compris le monde tout autrement que je ne le voyais là, et je n'avais pas tant de tort. Je me l'étais figuré, plein de petites règles frivoles et de petites finesses polies, plein de bagatelles graves et importantes, difficiles à apprendre et qu'il fallait savoir sous peine d'être ridicule, toutes ridicules qu'elles sont elles-mêmes. Et point du tout, il n'y avait rien ici qui ressemblât à ce que j'avais pensé, rien qui n'eût embarrassé mon esprit ni ma figure. Rien qui me fît craindre de parler, rien au contraire, qui m'encouragea ma petite raison à oser se familiariser avec la leur. J'y sentis même une chose qui m'était fort commode, c'est que leur bon esprit suppléait aux tournures obscures et maladroites du mien. Ce que je ne disais qu'imparfaitement, ils achevaient de le penser et de l'exprimer pour moi, sans qu'ils y prissent garde, et puis ils m'en donnaient tout l'honneur. Enfin, il me mettait à mon aise, et moi, qui m'imaginais qu'il y avait tant de mystères dans la politesse des gens du monde, et qu'il avait regardé comme une science qui m'était totalement inconnue et dont je n'avais lu le principe, j'étais bien surprise de voir qu'il n'y avait rien de si particulier dans la leur, rien qui me fût si étranger, mais seulement quelque chose de liant, d'obligeant et d'aimable. Il me semblait que cette politesse était celle que tout homme honnête, que tout esprit bien fait, trouve qu'il a en lui et qu'il en la lui montre. Mais nous voici chez Madame d'Orsin, aussi bien qu'aux dernières pages de cette partie de ma vie. C'est ici où j'ai dit que je ferais le portrait de cette dame. J'ai dit aussi, ce me semble, qu'il serait long, et c'est de quoi je ne me repens plus. Peut-être sera-t-il court, car je suis las. Tous ces portraits me coûtent. Oh, voyons celui-ci, pourtant. Madame d'Orsin était beaucoup plus jeune que ma bienfaitrice. Il n'y a guère de physionomie comme la sienne, et jamais aucun visage de femme n'a tant mérité que le sien qu'on se servit de ce terme de physionomie pour le définir et pour exprimer tout ce qu'on en pensait en bien. Ce que je dis là signifie un mélange avantageux de mille choses dont je ne tenais pas le détail. Cependant, voici en gros ce que j'en puis expliquer. Madame d'Orsin était belle. Encore n'est-ce pas là dire ce qu'elle était. Ce n'aurait pas été la première idée qu'on eût d'elle en la voyant. On avait quelque chose de plus pressé à sentir. Et voici un moyen de me faire entendre. Personnifions la beauté, et supposons qu'elle s'ennuie d'être si sérieusement belle, qu'elle veuille essayer de seul plaisir de plaire, qu'elle tempère sa beauté sans la perdre, et qu'elle se déguise en grâce. C'est à Madame d'Orsin qu'elle voudra ressembler. Et voilà le portrait que vous devez vous en faire de cette dame. Ce n'est pas là tout. Je ne parle ici que du visage, tel que vous l'auriez pu voir dans un tableau de Madame d'Orsin. Ajoutez à présent une âme qui passe à tout moment sur cette physionomie, qui va y peindre tout ce qu'elle sent, qui répand l'air de tout ce qu'elle est, qui la rend aussi spirituelle, aussi délicate, aussi vive, aussi fière, aussi sérieuse, aussi badine qu'elle l'est tour à tour elle-même, et jugez par là des accidents de force, de grâce, de finesse et de l'infinité des expressions rapides qu'on voyait sur ce visage. Parlons maintenant de cette âme, puisque nous y sommes. Quand quelqu'un a peu d'esprit et de sentiment, on dit d'ordinaire qu'il a les organes épais, et un de mes amis, à qui je demandais ce que cela signifiait, me dit gravement et en termes savants, c'est que notre âme est plus ou moins bornée, plus ou moins embarrassée, suivant la conformation des organes auxquels elle est unie. Et s'il m'a dit vrai, il fallait que la nature eût donné à Madame d'Orsin des organes bien favorables, car jamais âme ne fut plus agile que la sienne et ne souffrit moins de diminution dans sa faculté de penser. La plupart des femmes qui ont beaucoup d'esprit ont une certaine façon d'en avoir qu'elles n'ont pas naturellement, mais qu'elles se donnent. Celle-ci s'exprime nonchalamment et d'un air distrait, afin qu'on croie qu'elle n'a presque pas besoin de prendre la peine de penser et que tout ce qu'elle dit lui échappe. C'est d'un air froid, sérieux et pas décisif que celle-là parle, et c'est pour avoir aussi un caractère d'esprit particulier. Une autre, ça donne à ne dire que des choses fines, mais d'un ton qui est encore plus fin que tout ce qu'elle dit. Une autre se met à être vive et pétillante. Madame d'Orsin ne débitait rien de ce qu'elle disait dans aucune de ses petites manières de femme. C'était le caractère de ses pensées qui réglait bien franchement le ton dont elle parlait. Elle ne songeait à avoir aucune sorte d'esprit, mais avait l'esprit avec lequel on en a de toutes les sortes, suivant que le hasard des matières l'exige. Et je crois que vous m'entendrez si je vous dis qu'ordinairement, son esprit n'avait point de sexe, et qu'en même temps, on devait être de tous les esprits de femme le plus aimable. Comme Madame d'Orsin voulait. Il n'y a point de jolie femme qui n'ait un peu trop envie de plaire. De là naissent ces petites minauderies, plus ou moins adroites, par lesquelles elle vous dit « Regardez-moi ». Et toutes ces singeries n'étaient point à l'usage de Madame d'Orsin. Elle avait une fierté d'amour-propre qui ne lui permettait pas de s'y abaisser et qui la dégoûtait des avantages qu'on en peut tirer. Ou si, dans la journée, elle se relâchait un instant là-dessus, il y avait elle qui le savait. Mais en général, elle aimait mieux qu'on pensât bien de sa raison que de ses charmes. Elle ne confondait pas avec ses grâces. C'était elle que vous ignoriez en la trouvant raisonnable. Vous n'honoriez que sa figure en la trouvant aimable. Voilà quelle était sa façon de penser. Aussi aurait-elle rougi de vous avoir plu, si dans la réflexion vous aviez pu vous dire, elle a tâché de me plaire, de sorte qu'elle vous laissait le soin de sentir ce qu'elle valait sans se faire l'affront de vous y aider. À la vérité, ce dégoût qu'elle avait pour tous ces petits moyens de plaire, peut-être était-elle bien aise qu'on le remarquât, et c'était là le seul reproche qu'on pouvait hasarder contre elle, la seule espèce de coquetterie dont on pouvait la soupçonner en la chicanant. En tout cas, si c'est là une faiblesse, c'est du moins de toutes les faiblesses la plus honnête, je dis même la plus digne d'une âme raisonnable, et la seule qu'on pourrait avouer sans conséquence. Il est naturel de souhaiter qu'on nous rende justice. La plus grande de toutes les âmes ne serait pas insensible au plaisir d'être connue pour telle. Mais je suis trop fatigué pour continuer. Je m'endors. Il me reste à parler du meilleur cœur du monde, en même temps du plus singulier, comme je vous l'ai déjà dit. Et c'est une besogne que je ne suis pas en état d'entreprendre à présent. Je la remets à une autre fois, c'est-à-dire dans ma cinquième partie, où elle viendra fort à propos. Et cette cinquième, vous l'aurez incessamment. J'avais promis dans ma troisième de vous conter quelque chose de mon couvent. Je n'ai pu le faire ici, et c'est encore partie remise. Je vous annonce même l'histoire d'une religieuse qui fera presque tout le sujet de mon cinquième livre.